Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Retour en Force. On est déjà à notre 7e épisode, une 7e semaine là, consécutive pour moi au podcast personnellement. Et c'est moi-même, Johan Carrière, qui sera en charge de l'animation aujourd'hui. Pour cet épisode, on a un panel un petit peu réduit contrairement aux 5 qu'on est habitué d'avoir. Nous ne serons que 4 aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire là, qu'on va être en manque de discussions intéressantes qui, on espère, sauront vous divertir. Cette semaine, j'accueille Pierre-Luc Mongeon, Vincent Aurélana Pépin et Thomas Lafont qui sont ici pour nous parler de toutes sortes de sports et de toutes sortes de nouvelles qui se sont déroulées dans la dernière semaine et des prédictions sur certains événements qui se dérouleront lors des semaines qui vont suivre. À vous tous à la maison, j'espère également que vous allez bien. On vous rappelle que si vous êtes abonné à notre Patreon ou que vous ne l'êtes pas encore, il y a toujours possibilité de le faire pour nous écouter en direct et interagir avec nous sur les sujets dont on discute. Et sinon, bien sûr, via le site web du Club École, toujours possible de nous écouter en diffusé. Alors, sans plus attendre, on va entamer avec les premiers sujets. Et un des sujets qui continue de faire jaser, c'est le sport à Houston. Les Texans, après les rumeurs d'échanges entourant de Sean Watson, voilà maintenant qu'ils ont libéré J.J. Watt. Thomas Lafont, premièrement, ta réaction et ensuite, qu'est-ce que ça signifie pour les Texans et pour la suite de la carrière de J.J. Watt?
Ben, comme tu dis ça, très, très mal à Houston. J.J. Watt qui est parti. Ça m'a surpris, mais je m'en attendais quand même, puisque il avait mis plusieurs de ses frustrations lors de la saison, on se rappelle, dans une conférence de presse, je me trompe pas, à l'avant-dernière partie, il s'était excusé aux fans. Il disait qu'ils comprenaient pas pourquoi ils continuaient à les regarder parce qu'ils étaient tout simplement pourris. Donc, c'était sûr qu'il allait partir dans un futur rapproché. Je m'attendais pas à ce qu'il soit coupé comme ça, mais c'est la réalité de la NFL. Du côté des Texans, là, il va falloir bien sûr lui trouver peut-être un remplacement ou s'y régler la situation de Deshaun Watson. Donc, c'est en ligne pour être une saison morte assez mouvementée à Houston.
Ben, l'affaire avec... Oh, excuse. Sorry.
Vas-y.
Ben, parce que ce que moi, je voulais te demander, la question en fait que je voulais te poser, c'est... La question intéressante à poser là-dedans, c'est où il va aller. Parce qu'on sait tous les deux, on sait tous que s'ils n'ont pas fait ça parce que c'était le move intelligent à faire, ils ont fait ça parce que c'était le move respectueux à faire. J.J. Watt, qui est probablement l'athlète le plus adoré dans l'histoire du sport à Houston, à part peut-être Hakeem Olajuwon. Fait qu'ils l'ont laissé partir pour rien parce qu'ils veulent lui donner une chance d'aller gagner. Alors là, J.J. Watt a l'embarras du choix. Il peut aller se greffer à n'importe quelle équipe qu'il veut. Fait que je voulais te demander, c'est à quelle équipe tu penses qu'il va se greffer? Parce que les Packers, c'est une bonne possibilité parce que c'est un gars du Wisconsin. Si les Buccaneers ne peuvent pas signer leur joueur défensif, Shaq Barrett, il peut aller peut-être à Tampa Bay. Il y a une couple d'équipes, de bonnes équipes où il pourrait aller.
C'était aussi que je m'en allais. Là, il y a une douzaine d'équipes qui sont intéressées à ses services. Comme tu as dit, c'est un gars du Wisconsin. Bon, t'avoues que j'aimerais pas ça de voir avec les Packers. Il y a également des rumeurs comme quoi qu'il irait avec les Steelers rejoindre son frère. Honnêtement, ça fait quand même du sens.
Beaucoup.
Il y a également les Browns, les Jets, les Raiders, les Titans, et j'en passe. Vraiment, ça risque d'être... le marché est ouvert pour lui, et ça risque d'être... Toute une grosse situation à surveiller de savoir où est-ce qu'il va aller sa prochaine équipe.
C'est-tu le meilleur joueur défensif depuis Lawrence Taylor?
Ouf, bonne question, je te dis. Je dirais, honnêtement, si tu m'as dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit oui, mais là, Aaron Donald a vraiment stepped up et aussi Watt a ralenti, que ce soit à cause des blessures ou simplement à cause que Houston est vraiment à chier. Donc, je dirais que non, Aaron Donald a pris ce spot-là.
Moi, je pense que c'est le meilleur joueur défensif que j'ai vu depuis Lawrence Taylor. Puis je dis pas que j'ai vu jouer Lawrence Taylor parce que c'était début des années 90. Mais regarde, ce que je veux dire, c'est que oui, Aaron Donald est pas mal bon, mais il y a très peu de joueurs aussi dominants, aussi féroces et aussi méchants que j'ai vu de ma vie que J.J. Watt dans son prime. On parle d'un gars, c'était une locomotive. C'était un one-man wrecking crew, comme on dit en anglais. Ce gars-là, tu mettais ce gars-là sur n'importe quelle ligne offensive, puis il allait démonter des gens à tour de bras. C'était impressionnant, c'était effrayant. Puis il y avait très peu de choses de plus majestueuses à regarder que ce gars-là juste manger des joueurs de 300 livres pour déjeuner. C'était incroyable.
Ben, le gars a quand même trois fois joueur défensif d'année, 5 Pro Bowl, 5 équipes d'étoiles. Donc, il y a un assez bon résumé.
Exact.
En effet, c'est pas rien. Là. Un joueur qui a définitivement marqué, là, parce que comme Vincent le disait, là, c'est un joueur qui est tellement apprécié par la communauté. Donc, va avoir marqué là, le sport à Houston et leur a permis de vivre des beaux moments. On ne se le cachera pas. Vincent, il n'y a pas de... La dernière fois, en fait, qu'un joueur a remporté le titre de joueur par excellence dans la NBA, c'était de 1983 à 1986, quand Larry Bird l'avait gagné 3 ans de suite. Est-ce que cette année, on pourrait voir Giannis Antetokounmpo devenir le premier depuis?
La raison pour laquelle j'aborde ce sujet-ci aujourd'hui, c'est que je suis très fâché, dans le sens où je vois où ça s'en va, et je sais que je vais me fâcher, ce ne sera pas long. Parce que non, Giannis ne va pas gagner un troisième de suite. Et la direction dans laquelle ça s'en va, c'est que pour une certaine raison, les médias américains, puis on l'étudie en journalisme, c'est que j'adore les médias. Je ne suis pas le genre de gars qui écrit des conspirations contre les médias. Mais les médias américains, que ce soit ESPN, NBA TV, ont décidé que cette année, ça allait être LeBron qui allait gagner le titre de joueur le titre de MVP. Et je ne vois aucune raison pour ça, parce que ses statistiques cette année, il est à 25 points et demi, 8 rebonds, 8 assists. Et oui, c'est extraordinaire pour n'importe qui d'autre. Mais pour LeBron, c'est normal. C'est sa moins bonne saison dans les 5 dernières années, d'accord? Il y a des candidats qui sont en train d'avoir des aussi bonnes saisons, sinon meilleures, et des gars qui ne l'ont jamais gagné et qui méritent d'être considérés autant, sinon plus que LeBron. Prenons par exemple ton boy, Johan Carrière à Philly. Joel Embiid, le gars, je l'ai souvent dit, il était jamais en forme. Il n'est jamais arrivé en saison régulière. Il n'est jamais arrivé en forme. Il n'a jamais pris le temps de développer son corps et son cardio pendant l'été. Il l'a fait cette année. Et c'est pour ça qu'il a une moyenne de 30 points, 11 rebonds et un bloc et demi par game. Et les Sixers de Philadelphie sont premiers dans l'Est, d'accord? Le gars est inarrêtable dans le poste. Tu lui donnes le ballon, c'est 7 pieds 3 avec des fesses de la taille d'une Chevrolet que tu ne peux pas tasser quand il s'installe dans la bouteille bien comme il faut, d'accord? Puis pendant l'été, il a développé son arsenal de moves dans le poste. Puis en plus, il est à 40% du 3 points et il a également développé son arsenal sous le filet, mais la face devant le filet. Fait que pas nécessairement le dos au filet, mais là, il y a un arsenal en plus face devant le filet. Fait que moi, je pense que Embiid, c'est l'aspirant le plus sérieux au titre de MVP cette année. Ensuite, c'est Nikola Jokic, ton boy serbe, Johan Carrière. Nikola Jokic, qui en moyenne 27 points, 11 rebonds et demi et 9 assists par game, ce qui est des statistiques complètement ridicules pour un centre. On n'a pas vu un centre qui est capable de passer comme ça. On n'a pas vu un centre avec une vision du jeu aussi incroyable que Jokic depuis peut-être Mikal ou Sabonis ou Bill Walton, okay, dans les années, fin des années 80. Le gars est extraordinaire. Il faut prendre en considération Steph Curry, que son équipe, tout le monde pensait que... Personne voyait les Warriors faire les playoffs cette année, mais par pure force de désir de Curry, les Warriors sont pour l'instant 8e. Faut pas oublier Kawhi, qu'il a manqué une coupe de games, mais s'il n'avait pas manqué ces games-là, les Clippers seraient probablement premiers dans l'Ouest. Donc, le message que j'essaie de faire passer à nos auditeurs et aux gens qui ont déjà pris pour acquis que c'est LeBron qui va gagner l'MVP, c'est que vous trompez. Ça ne peut pas être LeBron. Ses statistiques ne sont pas assez bonnes. Et ça rien. J'ai quelque chose contre LeBron, mais je suis tout à fait objectif en ce moment. Non, pas vraiment. LeBron est bon, mais il ne gagnera pas l'MVP cette année. Il ne faut pas qu'il gagne. Il y a des joueurs qui ont des meilleures saisons. Il y a des joueurs qui le mériteront plus cette année. Puis je pourrais vous tanner avec des statistiques innombrables, mais je ferai pas ça.
Mais la saison est encore jeune quand même. Il reste encore beaucoup de basketball à jouer. Donc, même malgré ça, il y a des joueurs qui ont le temps de sortir. Et si LeBron se blesse, ben, ça va carrément le sortir de l'équation également. Donc, on ne sait jamais.
Exactement. Comme tu dis, la saison est jeune. C'est pour ça que je dis que je suis pré-fâché. Parce qu'on ne devrait pas être en train d'avoir cette conversation-ci. Mais les journalistes américains, les analystes sont déjà en train de l'avoir et de le donner à LeBron. Puis, encore une fois, je vous ai dit que je suis pré-fâché et je viens de voir sur mon téléphone une notification. Anthony Davis, le meilleur coéquipier de LeBron, est blessé 2 à 3 semaines. Donc, si les Lakers continuent sur une bonne lancée, il y a encore plus de crédit qui va aller à LeBron James de la part des analystes. Et je vais encore être plus pré-fâché, mais regarde, je vais rester calme pour l'instant. Poursuivons.
Moi, j'aimerais ça te voir fâché, en tout cas. J'aimerais vraiment ça.
Il y a des chaises, des souliers, il y a des crayons qui revolent partout. Tu veux pas voir ça?
Vincent et Thomas, j'ai une question à vous poser. C'est quoi le score le plus élevé d'un match de hockey que vous avez vu dans votre vie?
Que j'ai vu moi-même, vu de mes yeux vus, ça doit être du 7-6, quelque chose de même. J'imagine.
Okay. Intéressant, intéressant.
Puis mettons... Moi, j'ai eu un 8 à 9 dans le junior à Shawinigan vers 2014.
Okay. Si maintenant, okay. Pierre-Luc.
La plus longue, mettons.
Ouais, la plus longue aussi.
Ah, c'est très durée. Important, ça.
La game de Columbus contre Tampa Bay d'une série.
OK.
OK, ouais.
Pas pire. Bon choix. Vincent?
Ah, j'ai aucune des games les plus longues. Je suis pas assez ça. Je suis désolé, les boys.
Bon. Pierre-Luc, tu es ici aujourd'hui pour nous parler d'un match de hockey qui a eu lieu à Edmonton, dans le coin d'Edmonton,
ouais.
Et qui a duré 252 heures.
Ouais, c'est bien ça. Les gars, pour vous mettre un petit peu en contexte, 252 heures, c'est environ 10 jours. Donc, c'est une rencontre
non-stop.
Sans arrêt. C'est ça qui est impressionnant dans tout ça. C'est une rencontre. Ça a commencé le 4 février et puis ça s'est terminé le lundi 15 février à 6 heures du matin environ. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de 10 jours de hockey sans arrêt. En plus, c'est à l'extérieur, point très important parce qu'on va en parler dans quelques instants. J'ai tous les détails de ça. Ce match-là, c'est l'objectif en fait de cette rencontre-là, c'est d'amasser un certain montant d'argent qui était de 1,5 million pour une recherche sur le cancer à l'Université de l'Alberta pour venir en aide aux patients du Cross Cancer Institute qui est à Edmonton. Et puis, comme je l'expliquais, ça s'est terminé lundi. Et puis, c'est 40 joueurs qui ont participé à ça. Donc, imaginez les rotations qu'il y a dû avoir. Il y en a un qui dit « Oh, ben, on va me coucher 3 heures. » L'autre s'en va se coucher 3 heures. Après ça, il faut que tu y retournes. Mais, messieurs, voulez-vous savoir à quel point est-ce qu'il faisait froid? Et là, là, on peut-tu avoir une histoire plus canadienne que ça, honnêtement? Je pense pas. La température avec le facteur, le vent, les rafales de vent, là, moins 54 degrés. Ouch!
Mais non!
Mais oui.
C'est désagréable.
Assez désagréable. Puis c'est pas des petits vents, là. C'est des vents de 40 km/h, là. Donc c'est pas rien du tout. Puis le seul moyen que ça aurait pu être un scénario plus canadien, c'est si Tim Horton était impliqué dans tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais.
La batte bleue.
Aussi, écoute, tous les stéréotypes canadiens sur le hockey, on pourrait les sortir, mais je pense pas qu'on les a vus tant que ça. Mais bon, tout ça pour dire, 10 jours de hockey, c'est incroyable. Puis 2649 buts pour l'équipe de l'Espoir. Donc, c'était l'équipe Espoir et l'équipe Cure. Donc, 2649. But en 10 jours. Et puis 2528 pour l'équipe de la cure. Écoute, je vis pour ces histoires-là. Tout ce qui est inusité, puis que tu t'entends jamais ça, ça me fait capoter, puis c'est vraiment ce que je ressens. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment absolument. Puis l'organisateur, je termine là-dessus, il admet avoir vécu un roller coaster d'émotions, donc un manège d'émotions. Mais il tient à dire que ça se comparera jamais à ce que les patients atteints de cancer vivent. Donc, finalement, ils ont ramassé 1,4 million de dollars. Donc, tout ça, c'est pour une bonne cause. Et puis, malgré le froid, ben, ils ont établi un record mondial. Donc, c'est bravo. Je leur lève mon chapeau.
Je pense que le plus marquant là-dedans, c'est quand tu mets ça en perspective, c'était même pas proche le score. Ils ont gagné par 140 buts.
Mais je sais pas ce qui se passe.
Est-ce que les goalers ont changé?
Ben oui. C'est sûr, tu peux pas jouer 10 jours de suite, mais faut regarder ça en perspective hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe quand que tout le monde est juste fatigué et que ça vous tente plus? Tu laisses-tu passer des buts?
As-tu déjà vu Vladimir Poutine jouer au hockey?
Non, j'avoue que je suis quand même intrigué.
Essentiellement, Vladimir Poutine, les autres joueurs le laissent jouer. Fait que j'imagine que quand tout le monde est fatigué, ça a l'air de ça. T'as un gars qui part avec la rondelle, qui déjoue tout le monde puis qui marque facilement.
Ouais, puis t'as celui qui fait la petite célébration après parce qu'il a déjoué entre guillemets tout le monde.
Ouais, mettons que je pense qu'à 2649 buts, là, si tu célèbres, c'est parce que t'as pas compris grand-chose au sport.
Ouais, c'est ça. Puis au total, c'est quand même plus de 5000 buts. Là, fait que bref, pas de quoi trop célébrer pour ton but.
Non. Anecdote quand même là, que vont pouvoir raconter les personnes qui étaient impliquées là-dedans. J'ai déjà joué dans un match de 10 jours à moins 54 degrés. C'est pas rien. Alors qu'on parle de température froide, on va s'en aller au chaud, plus précisément du côté de Melbourne, où les internationaux d'Australie embarquent dans leur deuxième semaine. Et si la semaine dernière, je vous parlais là, que c'était un bon début pour les Canadiens et les Canadiennes, eh bien, le reste de la semaine s'est transformé en un désastre total. Premièrement, Bianca Andreescu qui a été éliminée. Et ce, dès le deuxième tour. C'est une déception là, pour la Canadienne, mais il ne faut pas oublier, là, c'est un retour au jeu. Donc, c'est à prendre à la légère. Il n'y a rien d'alarmant dans cette défaite-là pour Andreescu. Et chez les hommes également, là, ça s'est moins bien passé. Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont été pris pour jouer un contre l'autre. Donc, forcément, il y en a un qui devait plier bagage. Et dans ce cas-ci, c'est Félix Auger-Aliassime qui l'a emporté en 3-7 et a donc éliminé son compatriote canadien. Mais ça n'aura pas servi à grand-chose puisque dès le tour suivant, il affrontait un Russe, un qualifié, Aslan Karatsev. Et non, il ne s'agit pas ici du lion dans Narnia, mais bien d'un joueur de tennis, je vous confirme.
Hey, wow, Johan qui est plus intense que Vincent avec les références. Hey, c'est incroyable, on voit tout aujourd'hui, j'adore.
J'essaye. Et donc, c'est cela. Malheureusement, après avoir gagné les deux premiers sets, il l'a échappé, comme on dit. Et pour le troisième, Miloš Raonic, il affrontait Novak Djokovic. Là, donc, c'était une tâche assez lourde qui l'attendait. Il n'a pas été à la hauteur, malheureusement. Donc, on rentre là, finalement dans les quarts de finale cette semaine, enfin. Et les demi-finales et finales suivront tant chez les hommes que chez les femmes. À noter, on a encore les deux premières têtes de série de chaque côté. Donc, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont toujours en liste chez les hommes. Et on a Ashleigh Barty et Simona Halep qui sont toujours en liste chez les dames. Mais on a, à part de ça, c'est quand même un tableau très ouvert. On a plusieurs là, gros noms, particulièrement chez les dames, là, qui ont tombé rapidement. Pour vous mettre en perspective, là, chez les dames en simple en ce moment, il reste deux Américaines, là, Jennifer Brady et Jessica Pegula, qui ne sont pas là, dans le top 20 des joueuses, qui vont jouer l'une contre l'autre. Et on a également la Tchèque Karolina Mouchova, qui, elle, 25e raquette mondiale en quart de finale. Dans l'autre match, là, on a Serena Williams qui affronte Simona Halep, là, donc deux joueuses qu'on connaît assez bien partout dans le monde. Donc, un tableau quand même là, assez intéressant, assez ouvert. Chez les hommes, Dominic Thiem a plié bagage assez tôt également, mais on a encore là, des Medvedev, Rublev, Zverev et Tsitsipas qui sont toujours dans la course. Donc, ça sera intéressant à suivre. Vincent, tu as quelque chose à dire?
J'ai vraiment deux petits commentaires par rapport à ça. Un commentaire d'abord, tu as mentionné Jessica Pegula. Tu fais cocasse sur elle. C'est la fille de Terry Pegula, qui est le propriétaire des Bills de Buffalo. Fait que je trouve ça drôle parce que j'aime les Bills. Peu importe, c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, ce que je voulais te demander, c'est as-tu vu Miloš Raonic jouer contre Djokovic?
Non, j'ai pas regardé ce match-là, malheureusement.
Je me suis réveillé vraiment tôt hier pour regarder ça. Et je vais faire de Miloš Raonic le même commentaire que j'ai fait de Embiid pendant des années. Le gars est tout simplement pas en shape. Ce qu'il faut pour gagner au tennis, c'est ce que Nadal et Djokovic ont fait pendant une décennie. C'est se dédier corps et âme à prendre soin de leur corps. Avec Djokovic, il est allé gluten-free, right? T'sais, il y a une diète ultra spécifique, ultra précise, puis il s'étire 4 heures par jour. Nadal, c'est un gars qu'on n'a jamais vu quelqu'un aussi en chaîne que Nadal. Ils prennent soin de leur corps pour optimiser leur performance. Raonic, premièrement, il est bedonnant. Deux, il n'est juste pas l'air en shape. Plus les points sont longs, moins il performe dans ces points-là. Je l'ai vu, j'ai regardé le match au complet et c'était très peu impressionnant. C'est quoi ton avis là-dessus? Penses-tu que, tu sais, à un moment donné, il y a un gros service, il a été 5e au monde, mais il faut qu'il se dédie pour arriver à la prochaine étape.
Il y a une raison, comme tu le dis, pour laquelle il n'a jamais été capable de se rendre à cette prochaine étape-là, pour laquelle il n'a jamais réussi à percer de façon vraiment concrète le top 10 mondial. Il y a une raison pour laquelle, c'est très simple. En effet, il est juste pas au même niveau que Nadal, que Djokovic, que Federer. Puis c'est pas juste le principe que c'est un joueur qui se concentre beaucoup sur son service. Là. Il y a beaucoup plus que ça. Parce que c'est pas... Quand il a commencé sa carrière, oui, tout ce qu'il y avait, c'était un service. Mais maintenant, c'est un joueur quand même beaucoup plus complet qu'il l'était avant. Mais il lui manque encore certains éléments, certains attributs qui le mettent vraiment... qui font que même Djokovic, en étant diminué par une blessure, n'a pas eu tant de difficultés à disposer de lui.
C'est tout simplement, je pense, un manque d'effort. Parce que, comme tu dis, il y a tous les atouts. Il y a le service, il y a le revers. Il n'y a pas vraiment de retour, mais son forehand, son coup droit est absolument gigantesque. Fait que c'est juste, il manque ce petit effort-là additionnel pour se mettre en shape exemplaire. Puis ça l'amènerait à la prochaine étape. Je suis persuadé de ça.
Effectivement, mais il commence à être tard un petit peu là, pour Raonic, là, il a manqué son coup, là, comme on dit, parce que là, on a les jeunes là, qui continuent de pousser. Ça va devenir de plus en plus difficile. Vincent, justement, on va continuer avec toi et on va retourner dans la NBA parce que il y a certaines équipes, là, on entend beaucoup parler là, de LeBron James avec les Lakers, on entend parler de Giannis avec les Bucks. Mais il y a des joueurs là, qu'on n'entend pas nécessairement qui ont quand même un apport intéressant à leur formation. Et deux d'entre eux dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est Rudy Gobert avec le Jazz et Ben Simmons avec les 76ers.
Yes, ce que je voulais faire, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les deux équipes qui étaient premières dans leurs conférences respectives. Ça, c'est le Jazz de Utah et les 76ers de Philadelphie, d'accord? Puis si tu demandes à n'importe qui dans la rue quels sont les meilleurs joueurs sur ces deux équipes-là, quels sont les superstars sur cette équipe-là, pour le Jazz, ils vont dire Donovan Mitchell, qui a eu un duel extraordinaire l'année passée dans les playoffs contre le Canadien Jamal Murray. Puis pour les 76ers, ils vont dire Joel Embiid. Puis ils ont raison parce que Embiid, c'est un contender pour le MVP, puis Spider Mitchell vient de signer un contrat de 200 millions de dollars. Par contre, je regardais ça, puis je suis pas mal certain que les deux joueurs les plus importants pour ces équipes-là, c'est pas Mitchell et Embiid. Je me suis penché sur les deuxièmes meilleurs joueurs de ces équipes-là. Chez le Jazz, c'est Rudy Gobert. Fait que j'ai regardé ses statistiques, ses statistiques avancées. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, d'accord? L'équipe adverse a offensive rating? Un rating. Regardez, c'est la statistique globale de l'offense. Puis un gros chiffre. L'équipe qui est numéro 1 dans la Ligue, ça tourne autour de 119, d'accord? Fait que quand Rudy Gobert est sur le terrain, l'équipe opposée a un offensive rating de 105.2. Mais quand il quitte et lorsqu'il s'en va sur le banc, l'équipe opposée monte leur offensive rating à 112.3. Donc, c'est une différence gigantesque. Et la raison pour laquelle ça arrive, cette différence, est la raison de cette différence, c'est que Rudy Gobert, il n'est pas particulièrement athlétique, mais il fait 7 pieds 3, il est long, et il s'installe dans la bouteille, puis il fait juste faire l'arbre, d'accord? Donc, la simple présence de Rudy Gobert persuade les gardes et les forwards des équipes opposées de ne pas drive, de ne pas se diriger vers le filet. Donc, il va prendre des shots plus difficiles de plus loin. Rudy Gobert est primordial, et les statistiques avancées le disent, au succès du Utah Jazz. Et en offensive, C'est très simple. Quand tu fais 7 pieds 3 comme Rudy Gobert, fais un screen, fais un écran, puis ensuite, tourne-toi sur toi-même et dirige-toi vers le filet avec les mains dans les airs. Tu es plus grand que tout le monde, tu vas attraper la balle, puis tu vas la dunk. C'est un jeu quasiment inarrêtable que Rudy Gobert, Spider Mitchell et Mike Conley ont perfectionné pendant plusieurs mois, puis ça fonctionne très, très bien cette saison. Du côté des 76ers, Ben Simmons. J'ai regardé beaucoup de matchs des 76ers cette saison et j'ai vu Ben Simmons, il y a quelques jours, garder LeBron James et être un des seuls joueurs que j'ai vu de ma vie être capable de ralentir. Personne n'arrête LeBron James, mais il y a quelques joueurs qui peuvent le ralentir. Ben Simmons, Kevin Durant pendant la finale il y a une couple d'années et Kawhi Leonard. Ben Simmons a ralenti LeBron James et trois jours plus tard, je l'ai vu shut down Damian Lillard. Comprenez-vous? Je vous dis ça puis vous ne comprenez certainement pas. Là.
Non, mais...
la différence dans ce qu'il a fait, c'est que LeBron James fait 6 pieds 9, 260 livres de muscle. Ben Simmons a été capable de le garder. Damian Lillard fait 6-2, 200 livres puis est rapide comme Usain Bolt sur le court. Puis Ben Simmons a quand même été capable de le garder. Ben Simmons fait 6 pieds 9 et est capable de garder les 5 positions sur le terrain. C'est le meilleur joueur défensif de la Ligue. C'est probablement le meilleur joueur défensif qu'on a vu depuis Scottie Pippen. Ce qu'il est en train de faire cette saison, c'est inimaginable. Et regardez, je vais me calmer avant de faire des trop hot takes. Ben Simmons est la raison pour laquelle les 76ers vont gagner le championnat cette saison. Sa défensive est incroyable. Sa défensive va leur servir contre Giannis, contre n'importe quel joueur, parce que justement, à 6 pieds 9, il est capable de garder les 5 positions sur le terrain. Oui, Thomas.
Moi, j'arrête deux points là-dessus. Premièrement, tu dis que personne ne peut arrêter LeBron. C'est pas vrai. J.J. Barrera l'a très bien fait dans le temps de 2011. Deuxièmement, Simmons, selon moi, je trouve qu'il est un peu overrated. Laisse-moi finir. Oui, il y a une bonne défense. Par contre, c'est aucunement le talent générationnel que le monde disait qu'il allait être au repêchage 2016. Il n'y a pas de jump shot. Il n'y a pas de jump shot. Puis tant qu'il n'y en aura pas, il ne sera pas complet.
Pas besoin de jump shot. Il est à 14 points par game. Il est à 14 points par game, 8 rebonds et demi et 8 assists. Ils n'ont pas besoin de jump shot parce que, comme tu dis, ils sont allés chercher Seth Curry, le frère de Stephen, qui est knockdown du 3 points. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait un jump shot. Ils ont besoin qu'il garde le meilleur joueur de l'équipe adverse. Puis c'est ça qu'il fait soir après soir après soir. Et la statistique offensive la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est que malgré le fait qu'il n'y a pas de jump shot puis que les équipes adverses n'ont pas besoin de le garder au-delà de, disons, 18 pieds, le rating offensif des Sixers quand Ben Simmons est sur le court est de 117,5. Lorsqu'il n'est pas sur le court, c'est 106,5. C'est une différence gigantesque. Et ça, c'est malgré qu'il n'y a pas un jump shot.
Ouais, effectivement. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ils font jouer au point. Si il n'y a aucun jump shot, tu peux pas le faire jouer. Il n'y a pas la taille pour jouer point. Ni...
Il n'y a pas la quoi? La taille pour jouer point?
Ouais, je pense qu'il fait genre 6 et 8, quelque chose de même.
Magic Johnson faisait 6-10, puis c'est le meilleur point guard qu'on a vu de tous les temps. Il a la vision, il a les belles passes, il peut drive, il finit bien au rim, il a l'élévation. Puis si en plus, il peut faire 6-9, puis juste se mettre dans le poste de temps en temps, puis être plus fort que des gars plus petits que lui, on va le prendre. Puis ça compense pour son jump shot qu'il n'y a pas, comme tu dis, là.
Bon, faut que tu casses mes arguments.
Excuse. Mais écoute. Tout ça pour dire, c'est que Ben Simmons est extraordinaire et Rudy Gobert est extraordinaire et ils le font avec leur défensive. C'est pour ça que les gens n'en parlent pas trop.
Ben, ce sera intéressant à surveiller. Là. Peut-être, who knows, un des deux, un jour, dans la conversation du MVP, ça ferait clairement plus plaisir à notre cher Vincent que si c'était LeBron James. Thomas, un sport dont on entend peut-être un petit peu moins parler traditionnellement en raison du manque de compétition, c'est le patinage de vitesse. Mais pourtant, dans les derniers jours, on avait les mondiaux du patinage de vitesse et le Canada a fait très bonne figure.
Exactement. Tu viens un peu de détruire mon intro parce que je voulais parler du fait qu'on parle pas beaucoup de patinage de vitesse. Mais bon, en fin de semaine, c'était comme tu dis, en fin de semaine, c'était les championnats du monde de patinage de vitesse à... Excuse-moi, je vais probablement détruire le nom de la ville, mais à Heerenveen, aux Pays-Bas. Et comme tu as dit, les Canadiens ont fait, ont connu une excellente fin de semaine. Ça part avec notre Québécois, Laurent Dupreuil, qui a remporté l'or aux 500 mètres et le bronze aux 1000 mètres. Canada a également remporté l'argent à la poursuite par équipe chez les hommes et chez les femmes. T'as Isabelle Weidman qui a fini quatrième aux 5000 mètres chez les femmes, et Ivani Blondin a remporté de l'argent au départ en ligne, désolé. Donc, une excellente performance de nos Canadiens. On leur lève notre chapeau, et c'est ça. Faudrait qu'on en parle un peu plus du patinage de vitesse dans les médias sportifs, parce que j'ai l'impression qu'on en parle seulement lorsque c'est les Olympiques et quand il y a des compétitions à l'aréna Maurice Richard.
Est-ce que les Tremblay font encore les frères Tremblay, c'est ça leur nom? Est-ce qu'ils font encore du patinage artistique, de vitesse?
Toi, tu parles des frères Hamelin.
Ouais, c'est ça, excuse-moi. J'ai dit Tremblay, ma bad. Est-ce qu'ils font encore?
Je pense que... je sais que Charles a pris sa retraite. Son frère, par exemple, je n'ai aucune idée.
Son frère a déjà arrêté. Ça faisait plus longtemps qu'il avait arrêté, mais il était bien moins bon, là. François Hamelin, là, dont on parle, lui, il a arrêté avant.
L'affaire, je pense, avec c'est les athlètes de ces sports-là plus méconnus, c'est que faut qu'ils pour que les médias, pour que nous, on en parle plus, pour que les gens les prennent, les regardent plus, il faut qu'ils fassent leur nom d'abord aux Olympiques. Comme tu dis, les Hamelin, ils ont performé aux Olympiques, puis ensuite, quand ils gagnaient des médailles aux champions du monde ou quand ils gagnaient des Coupes du monde, on en parlait plus parce qu'on les avait déjà vus sur la grosse scène internationale aux Jeux, right?
Ben, je suis pas tant d'accord avec ça. Parce que, tu sais, aux Olympiques, c'est la même chose. S'ils gagnent au championnat du monde, ben, on va en parler. Quand ils vont arriver aux Olympiques, on va dire, hey, lui, il est à surveiller parce qu'il a gagné au championnat du monde. Puis après ça, ça revient pas mal au même. La seule affaire, c'est que les Olympiques sont tellement plus médiatisés, donc ils ont peut-être plus de visibilité.
True.
Pierre-Luc, au sein du club école et de notre cercle d'amis élargi, on a ce que la moyenne des jeunes appelle un inside joke qui est jeudi 22h.
Ah oui!
Pourtant, là, cette semaine, ce que la majorité des gens vont surveiller, c'est jeudi 11h.
Ouais, c'est ça. On fait un petit clin d'œil à notre cher Antonin Martinovitch qui a parti le bal. On se faisait une soirée poker et puis finalement, il a dit « Likez mon statut si vous allez être là jeudi soir 22h ». Et puis ben là, on regarde qu'est-ce qui se passe jeudi matin 11h. Eh ben, c'est pas officiel, mais pour l'instant, ce serait, selon les informations qu'on a reçues, le dévoilement du maillot de Club de foot Montréal. Pourquoi je dis que c'est pas officiel? C'est que c'est un peu la même formule qu'ils ont utilisée pour leur changement d'image. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils avaient mis 2021, ils avaient mis des chiffres, tout ça. Ben, ils ont fait un peu la même formule, mais avec un chandail. Comment est-ce qu'on sait que c'est un chandail? C'est que ben, c'est du tissu noir avec une ligne bleue, puis c'est vraiment les mêmes couleurs que l'on voit. Donc, pour tous les amateurs de Club de foot Montréal ou de l'Impact de Montréal ou peu importe comment vous êtes positionné là-dessus, ça va sortir jeudi si tout va bien. On va faire un petit retour en arrière. On se souvient que le dévoilement du maillot... On se souvient que quand ils ont annoncé leur identité, dans le fond, c'est le 14 février, ils ont dit que le dévoilement du maillot allait être annoncé à la mi-février. Donc, normalement, on est dans les temps. Donc, ça nous pousse à croire qu'on va vraiment le voir ce jeudi. Et puis, voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est noir de ce qu'on a vu. Il n'y a pas beaucoup de détails. On a une petite ligne bleue avec la fameuse couleur sacre bleu. Et puis aussi, on sait que c'est un changement identitaire qui, encore aujourd'hui, ça passe pas pour beaucoup de personnes. Cette semaine, on a eu les grands groupes de partisans de l'Impact de Montréal. Donc, on a eu 1642 Montréal, Ultra Montréal, 127, qui ont uni leur voix dans un communiqué afin de s'opposer à l'identité globale Club de foot Montréal. C'est un dossier non réglé pour beaucoup d'amoureux de l'Impact de Montréal qui souhaitent retrouver l'ancienne identité. Est-ce qu'on va la retrouver? Je ne pense pas. En tout cas, pas de sitôt. Puis s'ils pensent que jeudi, c'est le retour à l'Impact de Montréal, eh bien non, ce sera simplement le nouveau maillot. Je vais quand même être intéressé, là, je le dis vite fait. On va quand même s'intéresser au nombre de ventes de maillots. Parce que ça va en dire long aussi sur qu'est-ce qui s'en vient. Parce que oui, c'est une nouvelle identité, mais si on vend encore moins de maillots qu'avant, je ne suis pas sûr que ça va avoir été un bon move au final. Donc, c'est ça, je garde un œil là-dessus. Jamais je vois des informations passer. Je vous amène ça la semaine prochaine pour l'édition numéro 8 de Retour en force. Là.
Ça va être à surveiller, en effet. Puis ça va être, ouais, en effet, là, ces chiffres-là qui vont parler le plus sur le succès. Parce que derrière un rebrand, il y a souvent cette... C'est ça, c'est un coup de marketing tout simplement, c'est essayer de faire de l'argent en ressortant du nouveau stock. Donc si c'est un échec, ben c'est pas mal le rebranding au complet qui est un échec.
C'est exactement ça.
Cette semaine, il y a quelque chose d'assez intéressant à surveiller, que je vais surveiller personnellement en tout cas, et c'est le retour du baseball. Donc on parle pas ici là, du début de la saison régulière, là, c'est le début des camps de printemps dans la MLB. Et ben avec ça vient là, toujours les préparatifs de dernière minute. Et cette année, ben, on a eu une saison morte assez mouvementée, beaucoup de transactions, beaucoup de signatures majeures. Et ben il restait quand même là, quelques noms assez importants sur le marché des joueurs autonomes qui ont finalement trouvé preneur ou prolongé avec les équipes là, avec lesquelles ils s'alignaient déjà. Et un de ceux qu'on attendait le plus là, de voir ce qui allait arriver avec lui, c'est Justin Turner, le joueur de troisième but des Dodgers de Los Angeles, qui finalement revient là, pour une saison avec les Dodgers encore une fois. Là, c'était l'élément qu'il manquait aux Dodgers. Là, il fallait sécuriser là, le « hot corner », comme on dit. Et avec le retour de Justin Turner, c'est pas mal fait. Et ça fait que les Dodgers sont essentiellement pas mal bons partout sur le terrain. Dans l'enclos de releveur, dans la rotation qui avec l'ajout de Trevor Bauer, comme je le disais la semaine dernière, est maintenant la meilleure du baseball majeur. Vincent fait signe que non, mais trouve-moi une rotation qui est meilleure
que ça. Non, elle est absolument la meilleure. Je fais signe que non parce que je suis un fan des Mets, right? Donc, quand les Mets offrent 3 millions de dollars de plus à Trevor Bauer par année et qu'ils décident quand même d'aller aux Dodgers, c'est le genre de choses qui me...
Ouais, on en a beaucoup parlé la semaine dernière.
Ouais.
Et donc là, exactement, là, à l'avant-champ et au champ extérieur, on avait déjà là, beaucoup de bons éléments. Donc, c'est une très belle signature pour les Dodgers qui partent favoris. Une signature, par contre, là, qui va peut-être décevoir certains amateurs de baseball canadiens, c'est James Paxton. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il allait peut-être venir à Toronto. C'était l'élément qui manquait aux Blue Jays pour vraiment avoir une équipe là, plus sérieuse. Malheureusement, il s'en va avec une équipe qui n'est pas sérieuse du tout. Je vais faire attention à comment je dis ça. Mais les Mariners de Seattle, peut-être là, l'équipe la plus médiocre de l'histoire du baseball majeur. Et il va essayer de relancer cette équipe-là. Là, c'est un retour aux sources là, pour lui là, d'ailleurs. Qui signe là, quand même là, un contrat d'une saison également. C'est une tendance là, dans les signatures de dernière minute. Carlos Correa qui retourne avec les Astros de Houston sur un contrat d'un an et on laisserait entendre que ce serait sa dernière saison à Houston. Là, pour Carlos Correa, c'est le capitaine des Astros. C'est un des seuls joueurs dans la MLB qui... Genre qu'on sait qu'il y a ce titre-là, le titre de capitaine est plus une une formalité puis un symbole que d'autres choses là, dans la MLB. Et donc là, c'est un gros morceau. Après George Springer, il en resterait plus beaucoup là, du noyau qui a été cherché de la Série mondiale en 2017 si Correa venait à partir. Oui, exactement. On a eu Marcel Ozuna qui finalement reste avec les Braves également. Yadier Molina qui reste avec les Cardinals. Jake Arrieta, lui, est retourné avec les Cubs de Chicago. Et finalement, on a eu une transaction quand même relativement intéressante. Là. Andrew Benintendi des Red Sox de Chicago qui, on avait essentiellement beaucoup d'espoir en ce joueur-là. Il ne livre pas la marchandise depuis plusieurs années. Et est échangé dans un échange à trois équipes. Et lui, il quitte vers les Royals de Kansas City. Est-ce qu'on va être en mesure de relancer sa carrière avec les Royals? Ce sera intéressant à suivre. Mais jusqu'à date, c'est assez décevant le rendement là, pour lui. Donc, les camps de printemps qui commencent dès cette semaine. Et le 1er avril. Débutera la saison officielle de baseball. Et d'ailleurs, à ceux et celles que ça pourrait intéresser, parce qu'on parle de baseball du début des camps de printemps, je vous fais une annonce en primeur. On a un nouveau podcast baseball qui s'en vient, qui débutera dès cette semaine, la 10e manche dans laquelle vous pourrez retrouver notamment moi-même ainsi que Thomas qui est présent. Et on sera accompagné de Tristan Mac et d'une nouvelle venue au Club École, dont je ne vous dévoile pas l'identité tout de suite, mais si vous suivez là, un petit peu l'actualité des étudiants en journalisme à l'UQAM, vous savez probablement déjà de qui il s'agit. Mais on va tenir le suspense pour l'instant, donc manquez pas ça, ça va paraître mercredi matin, le premier épisode de cette nouvelle balado. Maintenant, on entre dans la dernière portion de l'émission et Vincent, on va retourner encore une fois dans la NBA et cette fois-ci, on va parler des Raptors de Tampa Bay qui pourraient peut-être voir échanger un joueur qui... peut-être aujourd'hui, là, peut-être considéré comme le meilleur de l'histoire de la franchise.
Oui. Moi, je pense qu'il devrait le faire. La raison pour laquelle j'aborde le sujet, c'est que je suis persuadé que les Raptors devraient échanger Kyle Lowry. Et la meilleure chose du directeur général, Masai Uji, c'est que c'est un réaliste. D'accord? Il ne se vend pas de rêve. Il ne se fait pas de faux espoirs concernant son équipe. La preuve étant que pendant des années, pendant 2-3 ans, les Raptors étaient absolument incroyables en saison régulière, mais quand ils arrivaient contre LeBron James dans les séries éliminatoires, tout prenait le bord. Et Masai Ujiri s'est pas vendu du rêve. Il s'est pas fait un faux espoir et puis il s'est pas dit « Oh non, un jour on va y arriver ». Non, c'est un réaliste. Il a réalisé qu'il allait jamais battre LeBron James et ils sont allés chercher Kawhi Leonard parce qu'ils savaient que ça allait faire une différence. Et cet échange a porté fruit. Là, il doit être réaliste et réaliser qu'ils ne vont pas gagner cette année. Sans Kawhi Leonard, sans un joueur incroyable de ce calibre-là, ils ne seront pas en mesure de battre Brooklyn. Ils ne seront pas en mesure de battre Philadelphie. Ils ne seront pas en mesure de battre Milwaukee ou Indiana ou Boston. Il doit être réaliste et échanger le joueur le plus adoré de l'histoire de la franchise. C'est quand la dernière fois qu'une équipe canadienne a... Là, je vous pose la question. Est-ce qu'on se souvient d'une fois où un joueur si adoré, si universellement acclamé au Canada a été échangé?
Piqué Souben.
Piqué Souben, c'est ça que je pensais aussi. Puis,
moi, je te dirais, Sakou Koivu était beaucoup plus unanime que Piqué Souben. Mm.
Est-ce que, dans les deux cas, est-ce que le Canadien a gagné cet échange-là?
Parce que Sakou, c'était agents libres, par contre. Mais...
Oui, exact. Ils n'ont rien eu en retour, mais dans l'échange de Piqué, ils ont gagné l'échange.
C'est ça, exactement. Ce qui arrive actuellement quand tu échanges ce type de joueur-là, c'est que la foule crie du haut des toits à plein poumon qu'on ne veut pas que ça arrive, parce qu'ils ont un biais. Ils ne réalisent pas que c'est la meilleure chose pour l'équipe. Et dans le cas de Kyle Lowry, c'est la meilleure chose pour l'équipe. Parce que comme je vous dis, ils ne battront pas les meilleures équipes de l'Est. Par contre, Kyle Lowry a une valeur extraordinaire en ce moment. Parce que des gardes comme lui, qui sont aussi acharnés défensivement, il y en a très peu. Il y a peut-être Mike Conley, qui quand il était à son prime physique, mais il n'est plus. C'est Kyle Lowry qui prend des charges, c'est Kyle Lowry qui est un génie défensif, puis c'est tout. Des équipes comme Boston pourraient échanger puis leur donner une multitude de draft picks. Des équipes comme Los Angeles pourraient l'utiliser. Le Jazz pourrait l'utiliser. Ce serait... faudrait faire des petits tours de passe-passe avec les plafonds salariales des différentes équipes. Mais Kyle Lowry, c'est une denrée rare dans la ligue. Et les Raptors devraient très sérieusement considérer l'échanger parce qu'ils pourraient aller chercher un gros trésor en échange de ce joueur-là. Ça va faire mal aux fans. Ça va tous nous faire mal au cœur parce qu'on adore ce gars-là. On a été partisans de ce gars-là pendant, c'est quoi, c'est sa 7e, 8e saison à Toronto.
2013.
Genre de... Combien, excuse?
2013 qui est arrivé.
C'est ça. C'est le genre de choses. Ça va faire mal, mais c'est le genre de choses qu'il faut absolument faire. Si on veut, avec une reconstruction, diriger l'équipe vers la terre promise.
Donc, à suivre, autre dossier. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de ça aujourd'hui, des dossiers à suivre. Ça en dit long là, sur ce qui s'est passé sur la scène sportive. Cette semaine, là, on sait que si Étienne avait été là, il aurait sans doute parlé là, de Kamaru Usman et de l'UFC. Malheureusement, nous, on est vraiment moins calés que lui là-dedans. Donc, on va lui laisser en parler dans les prochaines semaines. Mais c'est un sujet, peut-être le plus gros sujet là, qui a retenu l'attention cette semaine sur la scène de sport. Thomas, Orlando SC, bon, une équipe là, que peut-être moins, si on suit moyennement le soccer, là, on connaît peut-être moins, viennent d'ajouter un nouveau joueur. Qui vient pas de chez nous, comme on dit.
Non, effectivement, ils ont été chercher Alexandre Pato. C'est un buteur brésilien, pour ceux qui ne connaissent pas, 31 ans. Ceux qui ont joué à FIFA Ultimate Team en 2011 savent très bien que c'était une légende du jeu. Mais donc, oui, buteur brésilien de 31 ans. Il est principalement connu pour son passage à l'AC Milan de 2007 à 2013. Où est-ce qu'il a remporté le trophée Golden Boy de la FIFA en 2009. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'équivalent du trophée, je dirais trophée Calder Walk. Il a également remporté le championnat de la Serie A en 2011 et la Supercoupe italienne en 2012 avec Milan. Également au Brésil, il y a également excuse-moi, j'ai perdu une terme. Ben, il a également remporté quelques trophées, dont la Coupe du Monde des Cubes en 2006 avec Porto Alegre. Et il a également connu quelques bons passages à Sao Paulo et à Corinthians. Il a eu une tasse de café en Premier League en 2016 avec Chelsea, seulement deux matchs. Donc, ça n'a pas été fructueux sur la scène internationale. Pour le Brésil, en 27 apparitions, il a compté 10 buts. Donc, peut-être qu'il va réussir à relancer sa carrière en MLS. Ouais, sait-on jamais, mais par contre, ça m'étonnerait.
La MLS, c'est là que tu prends ta retraite souvent.
Ben, je veux dire, on parle d'un gars qui était au dire de Thomas, parce que j'ai pas joué personnellement à FIFA Ultimate Team, mais si c'était une légende en 2011, j'imagine qu'il est plus dans son prime. Là.
Non, mais c'est parce que sa carte était vraiment était vraiment oupi. C'est
mais j'ai l'impression que ça arrive quand même souvent, ça arrive très souvent avec plusieurs Brésiliens qu'il y a un jeune Brésilien qui performe pendant sa première Coupe du Monde, puis on dit de lui que ah, c'est le prochain grand joueur. C'est arrivé à Pato, j'ai l'impression que c'est arrivé à Kaká aussi, que c'est the next big thing. C'était supposé être les prochains Ronaldo, les prochains Messi, puis Pierre-Luc ou Thomas. Qu'est-ce qui est arrivé à Pato? Parce que je me souviens de l'avoir vu jouer en Coupe du Monde, puis je me souviens que tout le monde disait que « Ah oh ouais, il va être extraordinaire », mais c'est jamais arrivé.
Fais attention à ce que tu dis à propos de Kaká, parce qu'il a, ouais. vraiment, il a vraiment été une légende pour vrai. Pato, je le connais pas personnellement. Il jouait pas dans les ligues que je connais, dans les big leagues, comme
mais
on dirait.
S'il avait été bon, il aurait joué dans ces ligues-là.
Ben, pas nécessairement, tu sais, ça dépend de tes intérêts.
Période dans les grosses années de l'AC Milan, donc c'est quand même pas si mauvais que ça non plus.
Ton micro, il a comme coupé, tu disais qu'il était à Milan en Serie A, c'est ça?
Oui, dans les grosses années de l'AC Milan.
OK.
C'est déjà mieux que rien.
Ben, c'est ça.
C'est qu'il aurait dû être meilleur qu'il l'a été, j'ai l'impression.
Ah, ben un bon exemple, ça, ben, en fait, ça se compare pas tant, mais un qui me vient en tête, un talent échoué, si on peut dire, ça me fait penser au cas de Boyan à Montréal.
Freddy Adu.
Qui?
Freddy Adu, non? Il n'était pas supposé être excellent?
Oui, mais sinon, moi, je pense à Boyan, qu'on pensait que ça allait être un futur Messi, puis finalement, il est à Montréal, puis il y a beaucoup de difficultés. Ben, c'est vrai.
Vinicius également, plus récemment, Montréal, de... qu'on considérait que c'est un remplaçant à Ronaldo et qu'il ne fait rien présentement.
Aussi, il y en a plein de ces joueurs-là. Là.
Je peux vous dire, parlant de soccer, que depuis le début de la saison, je regarde de temps en temps le classement de la Premier League juste pour voir si j'ai de plus en plus de chances de faire 20$ à cause d'une niaiserie que j'ai dit dans un podcast. Ouais. Et Pierre-Luc, ben, t'as regardé la même chose que moi cette semaine.
Ouais, je suis surpris parce que c'était une blague, mais je suis un homme de parole et puis j'ai dit que j'allais te donner 20$ si West Ham finissait dans le top 6. Et voilà qu'ils sont dans le top 5. Donc, puis même ce matin... Ils étaient dans le top 4, dont le top 4, c'est les équipes qui font la Ligue des champions. Donc, je peux te dire que j'étais inquiet. West Ham en cinquième position, quoi? c'est pas normal. Bon, là, on sait, ça va quand même relativement bien. Puis, ils sont allés signer Jesse Lingard de Manchester United pour le restant de la saison sur un prêt. Mais ce qui m'épate le plus, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui, tu sais, ils ont gagné contre Sheffield United, Sheffield étant l'équipe de bas de classement, donc c'est pas une surprise, mais...
Qui a battu Manchester United?
Qui a battu Manchester United, très important de le mentionner. Puis, tu sais, Sheffield, ils ont, c'est-tu trois victoires? Trois victoires, dont une contre Manchester United, qui est présentement en deuxième position, mais ce que je trouve vraiment étonnant, c'est de voir West Ham en cinquième position et Liverpool en sixième position. Wow! Parce que Liverpool, c'était une forteresse. Avant le début de cette saison-là, ils étaient complètement trop forts. Puis bon, aussi, ils ont gagné la Ligue des champions et puis ils ont gagné beaucoup de tournois. Puis en tout cas, bref, ils étaient simplement trop forts pour la Ligue. Puis là, on les voit tomber en sixième position. Puis on s'attend à voir, je ne sais pas qui d'autre, comme Arsenal, Tottenham, ou tu sais, des gros noms comme ça, prendre la place de Liverpool. Non, c'est West Ham United.
Mais West Ham se maintient là, dans le top 7 à peu près depuis plusieurs semaines. Puis avant, il accusait des matchs de retard sur les autres équipes autour d'eux. Mais là, ils sont sérieusement ancrés dans le top 6 maintenant. Ils sont autant de matchs et quand même une avance sur Liverpool. Il y a Everton quand même qui traîne de la patte, mais qui a deux matchs en moins, a quand même sensiblement moins de points qu'eux. Là, et donc... C'est pas gagné, il reste encore 14 matchs à jouer, mais ça regarde bien.
Ben, je sais pas, c'est juste incroyable de voir le monde à l'envers présentement dans le classement parce que c'est pas supposé d'être comme ça. Puis regarde, même Arsenal, Tottenham, tu devrais les voir où est-ce qu'il y a West Ham, justement. Puis tu devrais voir Liverpool plus haut, mais c'est pas ça qui se passe. Donc, la première ligue cette année... probablement dû à la COVID avec tous les changements qu'il y a présentement. Par exemple, on pense qu'ils ont le droit à 5 changements. Donc, 5 joueurs de plus, 5 joueurs sur le terrain, c'est 2 de plus. Donc, ça peut affecter, mais si c'est ça, ben, qu'ils en profitent et qu'ils se rendent jusqu'au bout, là, c'est une excellente nouvelle pour eux.
Parlant d'excellentes nouvelles, bien, la saison de la Ligue américaine de hockey et de retour, et le Rocket de Laval, le club école du Canadien, a très bien paru à ses deux premières sorties. Deux victoires là, quand même assez convaincantes face à une équipe assez diminuée en les Sénateurs de Belleville, qui sont le club école de la pire formation de la Ligue nationale de hockey. Là. Donc, c'est un petit peu n'importe quoi comme équipe, mais une victoire reste une victoire. Et c'est surtout qu'on peut finalement voir à l'œuvre certains jeunes joueurs, certains jeunes espoirs du Canadien de Montréal qui démontrent de très belles choses. Et le nom qui est sur toutes les lèvres, c'est celui de Jesse Ylönen, qui était en Europe pour les dernières saisons et on avait hâte de le voir arriver. C'est un des bons pour le futur du Canadien de Montréal qui finalement il est là et démontre l'étendue de son talent. Un joueur qui, capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, possède une excellente vision, une très belle capacité de passeur. Il démontre de très belles choses. Et bien là, dans les prochains jours, on devrait également pouvoir voir d'autres gros noms qui sont dans le système du Canadien de Montréal. On a vu Joel Teasdale, on a vu Raphaël Harvey-Pinard, on a vu Ryan Poehling, et là, on devrait pouvoir voir les deux premiers choix du Canadien au dernier repêchage pour au moins quelques matchs, Yann Michak et Caden Goulet qui, devraient passer peut-être un match ou deux avant de retourner avec leurs équipes juniors. Parce qu'on sait que la OHL et la WHL ont finalement donné leur calendrier. La saison va débuter prochainement pour ces ligues-là également. Et donc, Goulet et Michak vont retourner rejoindre leur équipe junior une fois que ce sera possible. Mais on va quand même pouvoir les voir à l'œuvre un petit peu. Et bonne nouvelle pour le Rocket, on reçoit également de l'aide puisque Mikhail Frolik a été cédé pour du conditionnement. Et en primeur aujourd'hui, le directeur général Marc Bergevin a annoncé qu'on devrait voir enfin Cole Caulfield jouer professionnel d'ici la fin de la saison. Est-ce que ce sera à Montréal ou à Laval? Bon, ça reste à voir, mais ce sera du renfort intéressant pour l'équipe parmi les deux qui sera dans la meilleure position au classement. Thomas, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, si tu me permets, on voit aussi que la présence de Jordan Wheel sur l'avantage numérique à Laval fait en sorte qu'elle roule à plein régime.
Ben, c'est déjà... il y avait de l'expérience sur l'avantage numérique de la LNH, donc c'était un petit peu logique de le mettre sur l'avantage numérique dans la Ligue américaine, mais est-ce qu'il y avait vraiment sa place là avec Montréal? Ça, c'est un débat sur lequel on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps.
Ben bon, j'allais plus pour le jeu de mots, moi, Phil, mais...
Oui. Oui, j'avais compris, mais ça reste que c'est logique de le voir là. Je veux dire, on peut le niaiser autant qu'on veut et le critiquer autant qu'on veut. Il y a une certaine logique de le voir sur l'avantage numérique à Laval. Et sur ce, bien, c'est ce qui va conclure notre émission, cet épisode de Retour en force. Vincent, Thomas, Pierre-Luc, merci énormément pour cette revue de l'actualité. J'espère que ça vous a plu à la maison. Là, on travaille quand même fort là, pour vous amener du contenu de qualité semaine après semaine à travers tous nos podcasts. Surveillez ça, là, on est presque à un podcast qui sort chaque jour sur le site web. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, surveillez notre site web pour ne rien manquer de notre contenu. Et si jamais le cœur vous en dit, notre Patreon est ouvert à tous ceux et celles qui voudraient contribuer, que ce soit d'une petite façon ou une grande, peu importe, on prend tout ce que vous pouvez nous donner et ça nous permet là, de s'améliorer et de réinvestir ça dans notre beau projet qu'on chérit énormément. Donc, messieurs, merci encore. À la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et je vous souhaite de bien vous porter malgré les conditions. Il n'en reste plus beaucoup si on se fie là, à ce qu'on entend. Les nouvelles vont bien. Écoutez, on est dans le sprint final, là, mes amis. Un gros mois. Puis après ça, là, on va pouvoir commencer tranquillement, pas vite, à sortir. Ça va bien aller, comme qu'ils disent. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de bien vous porter au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours. Je suis Owen Carrière et je vous dis à la semaine prochaine.
Stay blessed.